avez-vous planqué vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Lessiveuse bas de laine, allez-y, c'est tricolore. Pour chiffrer l'impôt dehors, allez-y, c'est inodore. Import, passeport, export, allez-y, c'est sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Le liquide dans les caves suisses, allez-y, c'est tricolore. Au Luxembourg, qu'est-ce qu'on se bourre? Allez-y, c'est un dollar. Allez-y, c'est sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Perruque, boumoute, barbouze, allez-y, c'est tricolore. Non, allez-y, c'est un honneur. Mais le plus sûr, c'est chez moi. Venez-y, venez-y sans remords. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode? Savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous? Savez-vous planquer vos
Jacques Dutronc, savez-vous planquer vos sous? Eh bien maintenant, il n'y a plus besoin de les planquer avec les mesures qui s'allongent. Voilà, donc c'est une chanson qui n'est plus d'actualité. Mais ceci dit, pourquoi cette chanson? Pour amorcer la 325e édition des Petits Tas dans le Mou sur Radio Canu, la plus... une belle des radios. Parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Sainte Varice. Ça peut vous surprendre que Varice, c'est la patronne des trésoriers. Mais pourquoi? Parce que, eh bien, il y a un personnage qui s'appelait Gaspard Varice, qui a réellement existé, et qui dirigeait le bureau des finances de l'Anjou pour Louis XIV. Voilà, homme né en 1633, le 26 octobre, et mort en 1671. Voilà la bonne blague. Eh bien, on aurait bien besoin peut-être aujourd'hui d'un Gaspard Varice, mais peut-être est-il déjà dans notre gouvernement. Toujours est-il qu'à travers nos habituelles rubriques, on va essayer de vous parler de vos bilans et compétences personnelles et de ce que cela peut induire de se contraindre à se conformer à sa propre stratégie personnel. Benoît-on vacille. Il ne court pas au bout du quai. Cette vieille qui s'en retourne, lasse, sage apparemment sous les coups de bâton que son dos désigne, cette vieille aux lèvres sèches. Mais oui, soudain cette vieille s'arrête, reste sur place. Il n'a pas quitté le pan de mur derrière lequel il se cachait. Il pense à Judas. C'est drôle. Pourquoi Judas ? C'est Jules Chautard, le compagnon, qui a tiré cette vieille jusqu'au quai de la fosse. Jules Chautard, autrement nommé Père Pénard, paraît se désigner comme sa propre victime. Ce serait le plus propre des crimes, le crime parfait. La vieille reprend peu à peu son souffle. Elle ne fera pas volte-face. D'ailleurs, qu'a-t-elle à se reprocher, elle ? Ça s'agite en deçà du quai. Le dernier talon du dernier pied de la vieille est happé par la rue Fourcroix. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ces bons dieux d'anarchistes ? Tous à Cayenne ! Qu'ils y relaient les communards poussifs qui nous en sont revenus. Des éléments gâteux tels que Louise Michel n'offrent à la cause que l'exotisme d'une nef des fous qui ne saura séduire que les lunatiques bons pour les petites maisons. Autour de l'eau qui turbule, une rumeur grossit. Derrière le mur, front contre le mur, il se prend pour un contrefort. S'en aller, s'extraire, s'arracher, s'approcher, se pencher, refluer. Et si le mur, si la façade venait à s'écrouler à cause de lui qui s'en irait, combien de mascarons se verraient encore ébréchés ? Et combien de rictus tourneraient au morbide ? Et si la tête de ce démon, juste au-dessus de lui, avec ses cheveux bouclés et sa langue qui sort entre ses dents qui rit ou crisse, si cette tête-là venait à rouler le long du quai jusqu'à cette face plus blêmie que la barbe, et d'où s'écoule un filet de Loire grise entre les dents serrées du père Pénard, Pénard maintenant, sans majuscule, sa face blême, juste effacée, lorsqu'au bout de la rue qui monte un peu, la vieille s'est fait happer par la rue Fourcroix, sans se retourner une dernière fois. Bien qu'elle quittait le quai, où les voyageurs et les autres se séparent, sans même se retourner sur l'odeur épicée de son corps qui pourrit, si cette tête triste ou gaie ou tête de vieille se trouvait juste tombée entre les épaules de Benoîton, le planqué, parce qu'il faut bien qu'il se fasse une tête, ce vivant, et laquelle choisir quand tout s'est arrêté. Tous à Cayenne, ça c'est l'idée. Comme ça, comprenez-moi bien, monsieur le préfet. Au lieu de les servir en leur plantant la couronne d'épines des bois de justice, ils pourront, loin de toute publicité, s'amuser à se lancer des bombes et se poignarder entre eux jusqu'à ce que ça marre la nef des fous à l'abordage de leur phalanx téromérique. Mais ce n'est que la proposition d'un modeste commissaire spécial, familier des divagations politiques. Vous me passerez ces excentricités. Il faut bien rire un peu. Signé Charrier. Judas. Pourquoi Judas ? Jules Chautard prend ses jambes à son cou. Rendez-vous au cimetière. On parle à tort de conspiration révolutionnaire. Il n'en est rien, parole. Rien ne laisse présager une telle éventualité. Des différentes gares où je recueille mes observations, je n'ai rien à relater. Aucune décision prise en commun par les socialistes pour organiser des manifestations ou des contre-manifestations, on ne sait plus comment les appeler. Les guédistes passent leur temps à traiter les blanquistes de mouchards. par leur organe de presse, le peuple, et les blanquistes répliquent en baptisant leurs adversaires de lâches et de vendus, ou encore de chiasseurs. Je n'avais pas à être là, chez cette prostituée tant aimée. Je n'avais pas à claquer la porte sur la dénommée Angèle. Je n'avais pas à claquer la porte sur les compagnons qui dénonçaient Angèle comme une donneuse. Je n'avais pas à me trouver ainsi sur le quai, à filer le compagnon Jules Chautard. Je n'avais pas à rester planqué derrière ce mur. Ce pente-mur et à laisser filer Jules, vieux compagnon. Je n'avais pas à tolérer qu'il bouscule la pauvre vieille de la rue Fourcroix. Mais qui cherchait-il ? Carlotta, j'en suis sûr. J'ai un masque sur le visage. Qu'est-ce qui fait que je le supporte ? Qu'est-ce qui fait que j'ai joué à cache-cache sur les rives de la Loire ? La vieille s'est faite happer par la rue Fourcroix et je l'ai laissée sans retourner. Maintenant, il y a un noyer à fleur de quai. Je suis resté derrière le mur, de peur que pendant mon absence, il s'écroule. Ce mur ne demandait qu'à s'écrouler. Qu'ai-je fait ? Le pont maudit, à quelques centaines de mètres plus loin encore, sur un autre bras de la Loire, réaspire mes crachats. Je suis un irrésolu, comme ils disent dans les gazettes.
Un tiret, deux tirets, trois tirets, quatre tirets, cinq tirets, et un. Bonjour. Chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, on est venu aujourd'hui avec Mister Milouz et moi-même Miss Cosmos et vous suggérez que en fin de compte, c'est vrai, c'est sur le météorite, à quoi bon écouter le peuple? Il faut peut-être que notre télescope vous explique ce qui va se passer désormais dans vos entreprises, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Canette. Les dirigeants d'une société de moins de 11 personnes, ou de 11 à 20, s'il n'y a pas d'élus du personnel, vous proposeront les projets qui les intéressent. Quand il aura les deux tiers des voix pour lui, ce sera bon. Cette procédure se tiendra pendant le temps de travail et, théoriquement, en l'absence du chef d'entreprise. Et qui a parlé jusqu'ici de bulletins secrets? Voyez.
Le dauphin.
Imaginez le dauphin qui veut passer en force, comme vous dites par chez vous.
Le dauphin.
Mettons que vous votiez à main levée.
Le dauphin.
Qui osera apporter la contradiction? Qui est subordonné à qui dans vos boîtes? Et si vous êtes dans les petits papiers du patron ou de sa famille, résisterez-vous à la délation? Vous verrez très vite qui est le maître. D'ailleurs, à quoi bon solliciter les employés, Mister Milouz? L'urne et l'isoloir, c'est contraignant, surtout si vous n'avez qu'un salarié. Lever la main suffit, ça suffit bien, pour approuver ou pour être viré. Oh, sur le fragment gaulois, tout est trop formel, tout est superfétatoire, comme ils disent vos patrons, c'est singulier. Vive la liberté d'entreprendre. D'ailleurs, la procédure est encore trop compliquée et va réveiller les conflits dans le long fleuve tranquille du profit. C'est comme ce qu'on vous disait la dernière semaine hebdomadaire à propos du glyphosate. Si les députés ont reçu personnellement une charmante bafouille la veille de la fameuse séance de votre Parlement, hier, il était écrit « Vous risquez de céder à l'émotion et la production alimentaire se ressentira. Examinez les faits et non votre conscience. » Les opposants aux pesticides ont des moyens beaucoup plus réduits sur le météorite. L'initiative citoyenne fait rigoler les représentants cravatés, à ce qu'on a constaté depuis la dernière semaine hebdomadaire au moyen de notre télescope, de notre constellation d'épinate avec Mister Milouz. Même si cette initiative citoyenne a collecté un peu plus, pour le moment, d'un million de signatures. La volonté populaire fonctionne sous le coup de l'émotion, hein? N'est-ce pas, Mister Milouz? Dans les boîtes, comme dans l'écologie. Alors, laissez filer. Vous durerez moins que la constellation des Pénates, météorites. Dans la constellation des Pénates, tout se passe en harmonie. Et dans l'accompagnement mutuel. Bon, peut-être que c'est pas terrible, selon vous. Est-ce qu'elle est harmonieuse, la navette spéciale? C'est pas dit, à chaque fois, on a quelques difficultés à la faire redémarrer et à météoriter ou retourner par chez nous dans la constellation des pénates. Bon, en tout cas, pour le moment, elle tient. Et si tout se passe bien, on tâchera de revenir la prochaine semaine hebdomadaire.
Écoutez, que vos intérêts. Écoutez, que vos intérêts. Écoutez, que vos intérêts. Écoutez, que vos deux terrains. Écoutez, que vos trois terrains. Écoutez, que vos quatre terrains.
Fight the power. nothing but your home, 'cause you're a target. They got your trap, they got your phone. Look out, they got your trap, they got your home. Drone gonna take you out. Drone's gonna shut your mouth. Drone's flying, checking y'all out. Drone's in the hood like wow. Coming from the airport hangar. Hanging head certified bangers. Bunch of government gangsters. Programmed by government strangers.
Radio Canu 102.2 MHz en FM et en stéréo, s'il vous plaît. Vous êtes sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou. Nous fêtons aujourd'hui, selon le calendrier du Père Ubu, la Sainte Varice, patronne des trésoriers. Et on vous rappelle que, donc, on vous conseille jusqu'à ce soir, minuit, de faire un petit peu le bilan de vos compétences et de voir à quoi ça vous amène de vous contraindre, de vous conformer à vos propres stratégies. Rubrique Gamma, prisonnier à vie. Quand on parle de mobilisation chez les salariés, on oublie souvent d'évoquer son aspect psychologique. Il y a des entreprises. Des entreprises modernes avec leurs méthodes modernes de fonctionnement. Il y a des managers pour expliquer comment, dorénavant, nous allons procéder. On appelle cela, dans le vocabulaire contemporain, la normalisation. Souvenez-vous, Henry Ford, au cours des années 20, nous enseignait la rationalisation industrielle. Tout son effort était de créer d'autres façons de penser que ses prédécesseurs. Il s'agissait de sentir la vie pour qu'émerge un type nouveau de travailleurs et d'hommes sages et économes, comme il disait. Où en sommes-nous en 2017 ? Oui. Nous sommes parvenus à un homme disponible sur tous les fronts, entrepreneur de sa propre existence. Nous avons à inscrire ce phénomène dans une temporalité qui prend les marques dans la durée. Ainsi verrons-nous les contradictions qu'il génère. Je sais qu'il est difficile de réfléchir dans un monde où tout va si vite. Réfléchir sur des très longues durées, ce n'est pas évident. Pourtant, notre période est originale, à plus d'un titre. Elle ne ressemble pas à celles qui ont généré les précédentes crises du travail. L'espèce humaine n'est plus la même que celle qui motivait nos ancêtres à agir comme ils l'ont fait. On n'a pas bien pris la mesure des métamorphoses qui nous ont touchés. Et puis, l'exaspération d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'exaspération d'hier. Le système actuel puise ses fondements dans l'organisation passée du système industriel classique tel que nous l'entendons. Mais l'objectivité, telle que nous l'entendons, a changé de sens elle aussi. Nous défendions un réalisme d'une époque où la mécanique organisait le monde. Puis est arrivé un pessimisme généralisé. Il sortait du fond de la pensée, quand le monde a commencé à n'être plus conforme à l'objectivité telle que nous l'entendions. Nous baignions dans l'idéalisme de nos vieux pères. Nous n'avions pas encore tout à fait dit adieu à leur Dieu. On vénérait nos sacrifiés, quelle que soit leur cause. Mais les héros ont fait leur temps. La science nous montre ce qui est vrai. La philosophie et la poésie ont disparu de notre quotidien. La vérité se comporte comme un tyran. Nous lui sommes soumis. Mais la vérité est de plus en plus circonscrite. D'ailleurs, elle n'utilise plus des grands mots comme nos aïeux, les philosophes et les poètes. Celui qui prétend sonder l'âme humaine parle d'une enquête à grande échelle, ce qu'on appelle une investigation rationnelle. Mais je demande à cette antenne, comment se définit une connaissance stricte? Comment on peut parler sereinement d'un droit inaliénable? Je veux compléter mes connaissances, qui au fond, quand j'y danse, sont restreintes. Mais je veux qu'on m'enseigne les choses de façon vivante. Qu'est-ce que la rigueur d'une psychologie académique? Dès qu'on m'expose les choses avec vérité, je me sens humble et tout petit. Après, je confesse mon manque de connaissances. Je suis inférieur à tous ceux qui passent leur temps à penser à ma place. Mais c'est grâce à eux qu'il me semble que mon pays est supérieur aux autres. Et je me sens encore plus mal à cette pensée. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. Je n'ai pas envie de raconter sur Radio Canu ce qu'il s'est passé à cette occasion. C'est mon choix, ne venez pas m'embêter à ce sujet. Si j'ai été touché par cette rencontre, il faudrait que je l'explique en remontant très loin dans mon histoire. Je ne ferai que vous ennuyer, auditeur. Alors on va faire vite, et puis après vous allez me juger très vite, vous aussi. En fait, ma relation des faits ne serait qu'un commérage. Derrière, vous pourriez émettre des jugements mesquins, ce qui se passe journellement. Mettons que je sois un de vos proches. C'est quoi proche? Comment ça se définit? Hier, j'ai rencontré quelqu'un et cela a eu des implications dans ma vie personnelle. C'est une rencontre précieuse, comme ça n'arrive pas tous les jours. En fait, je n'étais plus dans la réalité tangible, celle de tous les jours. Comment le faire passer sur l'antenne d'une radio? Je serais incomplet. Je voilerais les choses à ma façon. Au mieux, je ferais de la poésie. Ce serait le mieux. Car cette rencontre était un poème. Mais il est mal vu de vivre au jour le jour. Vivre au jour le jour, cela veut dire trembler à chaque instant et jubiler de temps en temps. Ma vie s'est passée dans l'humiliation. C'est pour ça que je ressens de la rancune que je ne voudrais pas que vous ressentiez à votre tour en m'écoutant. Victime d'une terreur concrète, j'ai en moi des pulsions cruelles. Je ne sais pas pourquoi je me bats, mais j'aime la lutte pour la lutte. J'aime l'art pour l'art. J'aime tourner dans les cours fermées parce qu'ils m'ont fait tourner quand j'étais prisonnier. J'ai l'impression que je serai prisonnier, à vie. C'est pour cela que j'aime la vie. Est-ce banal? Et voici venir notre ultime rubrique. La rubrique... Yaka. La rubrique où Déborah se dépatouille avec son parapluie. Viens. Viens avec moi dans la salle de bain. On sera bien dans cet isoloir. Tu verras. Il sera bien. Il sera meilleur que les autres. Et on se le partagera. Ah, ce ne sera pas le plus bel homme de la planète. S'il était trop beau, je serais trop jalouse. Il ne sera pas non plus plus intelligent que la moyenne. Sinon, je serais trop jalouse de lui ou des autres. Discret, oui. Voilà la première qualité que je souhaite à mon homme. Discrétion, compréhension. Mon amour de l'amour. Toi, je te parle. Toi, tu m'écoutes. C'est ce qu'on appelle la qualité relationnelle. Il s'agit de Mademoiselle Déborah. Déborah Varis, qui rêvait d'une fidélité sans faille. Je le tuerais dans le cas contraire. C'était... Vous en connaissez quelques exemples, une rêveuse qui rêvait. C'est-à-dire qu'elle ne comptait que sur son amour de l'amour. Le départ, dans ces conditions, c'était interdit, exclu. Elle pouvait le tuer. C'est une autre question. Elle resterait amoureuse de son amour. Elle allait au cinéma, ce qui est banal entre nous. Mais un soir, une main se posa sur son épaule. Non, ne blaguez pas, ce n'était pas une alouette, une petite patte crochue la retint en arrière. Une alouette, non, mais un outrage à sa féminité. Vous aimez l'amour pour l'amour. Elle se met une drôle de chose. Et elle sentait une drôle de chose du côté de son épaule, un frisson. Qui lui laissait présager le manque. Je suis prise ! Elle se retourna dans un présent immédiat. Oh, pardonnez-moi, c'est juste que vous avez oublié votre parapluie sous votre siège. Elle était gonflée d'air et cet air s'échappa d'un coup, comme d'un pneu crevé. Elle regarda ce parapluie sans quitter sa mine outragée. Pauvre Pépin. Il avait envie de dire « Je n'y suis pour rien, moi !» Déborah était de plus en plus outragée. « Merci !» lança-t-elle quand même. Elle s'empara de l'ustensile et fit aussitôt volte-face sans accorder un seul regard au restituteur de parapluie. Elle eut peur de le trouver à sa convenance et de ne plus savoir sortir du silence de sa salle de bain. L'amour de son amour. L'homme laissa tomber sa tête de ses épaules. Quel pain bêche de toute façon. Rien à espérer. Déborah rentra chez elle sans se défaire de l'impression d'être suivie et matée tout le long du trajet. En fin de compte, elle aimait le métro. Elle craignait, en naviguant par les rues, de passer inaperçue et qu'un mauvais plaisant, sans crier gare, en deux temps trois mouvements... Elle claqua la porte, clencha le verrou du haut et le verrou du bas et s'assit sur le banc de bois sans ôter son French coat. Elle repêcha dans ses émotions quelques images qui devaient servir à ce qu'elle se remémore le film. Elle tombait à coup sûr sur la Seine où le parapluie de Déborah s'inversait sur le pont sous une pluie battante. Dans sa lutte contre le vent, Déborah ne s'apercevait pas que l'eau ne la mouillait plus. Le parapluie de l'homme, comment s'appelait-il, était au-dessus de sa tête, la protégeant des intempéries. L'homme, puissant, fort, viril et tendre, cria dans la tempête « Échangeons !» Vous avez besoin que je récapitule. Déborah était-elle disposée à échanger son amour de l'amour contre un parapluie? Elle sourit du lapsus. Tant qu'elle pencherait pour le parapluie davantage que pour son propriétaire, comment s'appelait-il donc dans le film à la fin? L'amour de son amour ne serait pas inquiété. Elle se mit à l'aise. Elle se fit chauffer de l'eau. Elle but. De l'eau tiède. Elle avait oublié de noyer le sachet de tisane. Une tisane ? N'était-elle pas une espèce de vieille fille, incapable de colorer les yeux du restituteur de parapluie ? Pour sa peine, elle s'obligea à avaler toute l'eau tiède sans tisane. Elle appréhendait l'heure de la toilette intime. Cette cérémonie était traditionnellement l'acte de séduction qui ramenait à elle l'amour de son amour. Elle parcourait son corps avec des yeux qu'elle rendait myopes. Coquine, elle questionnait tout bas. Qui l'aura ? Alors, il entrait. As-tu pensé à moi ? Elle se mit nue avant de se brosser les dents. Ses seins qui claquaient comme des drapeaux tenaient lieu de vigie. Mettons de côté ce soir les sentiments. Je ne me souviens pas du film et c'est tout. Elle ne pouvait pas s'empêcher de retrouver sa vue normale pour fixer dans la glace le point de son épaule qui avait été pincé par l'homme qui s'y prenait mal aux yeux serviables trop oubliés. Mais il n'y avait pas trace de violence, aucune preuve. Son épaule était claire sous les taches de rousseur, couleur de la crème du lait. Elle jeta la brosse à dents dans le verre. Doucement, elle se posa la main sur l'épaule meurtrie. La main était plus froide que l'épaule. Elle regarda ses hanches, se brouillant à nouveau la vue. Soudain, au moment où on s'y serait le moins attendu, elle courut jusqu'à la chambre, sans souci de discrétion et s'engouffrant sous les draps, elle saisit de force et à deux mains le visage de son mari. En larmes, elle le mitraillait de baisers tout partout et répétait en bafouillant « Prends-moi, prends-moi Jean, je t'en prie, maintenant !» Elle l'emprisonnait de ses cuisses. L'homme ne put contester l'émoi de son membre. Incapable d'articuler le moindre accord ou désaccord grammaticalement correct. Il essaya de réfléchir aux occupations nocturnes de sa compagne. « Faudra que j'aille analyser ce film », se dit-il en éjaculant. Il avait dans l'esprit que sa petite amie de 20 ans, l'autre, en éprouverait peut-être du plaisir. Elle.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Viendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape.
Barbara, dis, quand reviendras-tu? Mais à qui s'adresse-t-elle? Nous, en tout cas, on va vous laisser, non pas avec la bande passante dite bande continue, exceptionnellement, puisque vous allez retrouver, juste derrière nous, l'émission exceptionnellement, qui d'habitude passe à 14h le mercredi, ce sera 14h le jeudi aujourd'hui, et vous allez voir que ça va parler un peu de théâtre, et les sentinelles du théâtre de la place de Lillière. Nous, alors, on vous rappelle quand même que jusqu'à ce soir, on vous engage avec le Père Ubu et avec Alfred Jarry à faire votre propre bilan de compétences et à voir un petit peu qu'est-ce que ça vous contraint de vous conformer à vos propres stratégies que vous avez mises en place suite à votre bilan de compétences personnelles. Voilà, donc être la sentinelle de soi-même, qu'est-ce que ça amène. À l'instant, vous allez retrouver donc Spectaculaire, ensuite un peu de bande passante, ensuite à 17h, l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises, cul par-dessus tête. À 18h, ce sera Grain de sable, l'émission d'attaque, où il sera question de se poser la question comment, au niveau communal, on peut aussi influencer sur le changement climatique, si c'est possible ou non, et avec quels moyens. Et ensuite, comme chaque semaine, chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu, la plus belle des radios. Quant à nous, si tout se passe bien, on se retrouve la prochaine semaine, ou le 2 novembre. Ça ne sera pas la fête des morts, car Alfred Jarry ne supportait pas ça, et le Père Ubu non plus. Ce sera le jour de vos examens de conscience. Allez, on laisse la passe à Spectaculaire.